Radio Starbit.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Mais ça vous surprend qu'un blanc se grime en noir ou porte un costume du Ku Klux Klan? Vraiment, ça vous surprend? Les hommes blancs font ça depuis des années.
Il y a des souvenirs qu'on n'a pas envie de raviver aux États-Unis, encore moins dans un état du Sud, un état anciennement sécessionniste, les blackface, le visage grimé en noir ou en déguisement du Ku Klux Klan. Et pourtant, en Virginie, ces souvenirs remontent et ce sera l'escale reportage ce soir d'Un jour dans le monde sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Australie, en Zambie, au Pakistan, 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Angélique Bouin nous emmène en Roumanie où l'icône de l'anticorruption est visée par une campagne de discrédit. Et puis 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four aux États-Unis, lui aussi, puisqu'on commémore les 1 an du massacre de Parkland. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, ces jeunes courageux qui se sont mis debout contre les armes? Eh bien, rien ou pas grand-chose. Avant cela, c'est au Nigeria que nous allons ce soir. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Un Nigeria qui vote samedi, 84 millions d'électeurs, 190 millions d'habitants, le plus peuplé des pays d'Afrique. On va parler démocratie, économie, on va parler sécurité. Vous savez que nous sommes dans un pays touché par Boko Haram. C'était aujourd'hui, jeudi, le dernier jour de campagne. Bonsoir Laurent Fourchard.
Bonsoir.
Vous êtes historien et politiste, vous êtes directeur de recherche au Centre de Recherche International de Sciences Po, vous êtes à Bordeaux. On remercie nos amis de France Bleu à Bordeaux d'avoir prêté vos locaux. Vous avez publié aux presses de Sciences Po en 2018, donc l'année dernière, trier, exclure et policier, vie urbaine en Afrique du Sud et au Nigeria. On va revenir sur Boko Haram assez vite, Laurent Fourchard, parce que ça nous intéresse évidemment grandement. D'abord, un mot quand même sur cette campagne qui s'est passée finalement. On dit quoi? Dans de bonnes conditions, qui promet donc une élection claire, qu'est-ce qu'on en dit?
Bonnes conditions, disons que ça se passe un peu différemment de la manière dont ça s'est passé en 2015, donc à la dernière élection présidentielle, à savoir un niveau de violence relativement modéré, violence électorale, hein, j'entends, c'est-à-dire liée aux enjeux électoraux du moment. Et avec un champ bipolaire, bipartisan, avec deux partis politiques majeurs qui s'affrontent, comme en 2015.
Et chaque candidat qui s'est engagé à être magnanime au moment des résultats, ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre, que les choses soient très claires de ce point de vue-là, il n'y a rien à craindre au moment des résultats?
Si, toujours. Mmh. Hein, en fait, à la dernière élection, le président sortant a effectivement reconnu sa défaite, mais c'était la première fois que ça se faisait. Hein. Les élections précédentes, en réalité, l'opposant conteste généralement les résultats, mais il les conteste devant la Cour constitutionnelle ou devant la Cour suprême. Et ça se finit généralement par un verdict de la Cour suprême. Quoi. Donc il y a bien une possibilité de violence liée à l'annonce des résultats, mais il y a souvent un recours judiciaire en fait.
Alors Laurent Fourchard, pour que les gens comprennent bien, le président actuel qui brigue sa succession, donc le président Buhari, on l'avait surnommé l'incorruptible lorsqu'il est arrivé en 2015. Il était élu sur cette étiquette, il avait cette auréole-là. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette auréole? Est-ce qu'elle a été très abîmée ou partiellement seulement? Comment on peut le dire?
Alors effectivement, hein, c'est là-dessus qu'il a fait campagne en 2015, mais il avait une réputation qui est antérieure à celle-ci, en fait. Un peu, c'est l'opposant historique au gouvernement fédéral de 1999 à 2015, et avant ça, c'était un dictateur militaire entre 1983 et 1985, qui s'est fait appeler Monsieur Discipline et Monsieur Anticorruption dès cette période-là. Donc, depuis 2015, il a effectivement utilisé les outils à sa disposition pour poursuivre un certain nombre d'hommes politiques, notamment des gouverneurs, notamment des ministres fédéraux. Mais on lui reproche beaucoup, en fait, de faire comme ses prédécesseurs, à savoir l'argument de la corruption essentiellement pour éliminer ses opposants politiques. Et effectivement, la plupart en fait des hommes qui se retrouvent poursuivis par la justice nigériane sont essentiellement des opposants. Donc notamment le secrétaire général, l'ancien secrétaire général du gouvernement fédéral, l'actuel secrétaire national du parti d'opposition ont été poursuivis et enfermés par la justice nigériane. Alors que les ministres actuels du gouvernement fédéral n'ont pas forcément les mains très propres, mais ils ne sont pas poursuivis.
avec une situation dans ce pays qui a réussi à bouger, on a l'impression qu'on est toujours, alors il y a eu effectivement la crise pétrolière qui est passée par là, on est toujours dans une situation d'extrême pauvreté. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui ont été faites? Est-ce qu'il a un bilan, ce président sortant?
Alors effectivement, il est tombé au plus mauvais moment, hein, puisque élu en 2015, la chute du cours du brut en 2016. Hein, il ne faut pas oublier que le Nigeria, c'est donc la première puissance pétrolière de l'Afrique et que l'essentiel des ressources de l'État fédéral et donc des États fédérés, des 36 États fédérés, proviennent en fait des ressources de la manne pétrolière. Du coup, l'effondrement du cours a vraiment grévé largement le budget fédéral, le budget des États. La croissance a été négative en 2017. Elle a un peu repris en 2018. Le taux de chômage a considérablement augmenté. Hein. Il aurait été doublé pendant son mandat. Et alors qu'il avait un programme de relance un peu volontariste, un peu différent des gouvernements fédéraux précédents, avec une politique industrielle, une politique agricole volontaire, en fait, il s'est trouvé un peu à court d'argent et d'investissement pour réaliser ses politiques. Donc le bilan d'un point de vue économique est assez mauvais, quoi.
Alors, moi, je disais quelque part cet après-midi que sur l'agriculture, notamment, il avait au moins permis un certain nombre de choses soient désormais faites sur place, que les importations, notamment de riz, soient nettement moins importantes. Oui. Est-ce qu'il y a eu des progrès quand même qui ont été réalisés de ce côté-là? Ou est-ce qu'on ne peut pas le dire?
Si, en réalité, il a tenté de favoriser le crédit, de faciliter l'accès au crédit, en fait, pour un certain nombre d'agriculteurs. Donc, il a lancé un plan, une année après son arrivée au pouvoir, qui a permis l'accès au crédit entre 300 et 500 000 agriculteurs, ce qui est pas négligeable. Mais à l'échelle du Nigeria, si vous voulez, ça fait pas une différence majeure, quoi, en fait.
Et il faut rappeler quand
même... Avec 100 millions de la population qui vit encore dans la campagne, si vous voulez, c'est une goutte d'eau, quoi.
Et ce qu'il faut rappeler aussi quand même, c'est que, et ça, j'imagine que ça joue beaucoup dans ce scrutin-là, plus de la moitié des électeurs ont entre 18 et 35 ans, c'est le pays le plus jeune d'Afrique, le Nigeria, vis-à-vis de cette population-là qui a un taux de chômage qui est colossal, comment il est perçu ce sortant-là?
Alors auprès des jeunes, je pense qu'il est, il est perçu comme, enfin, cette question fondamentale de la classe politique nigériane qui a tendance à être patriarcale et plus elle est vieille et plus elle semble être respectée, en tout cas par les partis politiques. Mais effectivement, il y a un vrai souci de représentation par les jeunes. Mais en fait, quand on est jeune, c'est difficile de faire campagne, hein, parce que, pour simplement candidater ou déposer sa candidature, par exemple, dans le parti principal, simplement pour poser sa candidature, par exemple, pour devenir gouverneur ou sénateur, il faut déjà avancer 100 000 livres en cash, quoi. Donc, si vous voulez, pour des jeunes qui veulent se lancer en politique et qui n'ont pas le moyen, en fait, c'est un peu compliqué.
Mais ça existe, des jeunes qui veulent se lancer en politique sans moyen? Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de candidats. Alors, il y en a eu combien? Une soixantaine, autant que je sache. Il y en a évidemment deux qui émergent. Mais ça existe, il y a une vraie volonté, il y a une classe politique, il y a une relève politique dans ce pays ou pas?
Alors, Fourchard, en fait, la question, elle est plus liée au fait que le champ partisan est divisé en deux blocs. Hein. L'actuel parti au pouvoir qui s'appelle les PC et puis l'opposition actuelle qui s'appelle le PDP et qui était au pouvoir pendant 15 ans. Et donc, pour pouvoir avoir une chance, en fait, même pas d'être élu président, mais de faire partie des gouverneurs élus dans 15 jours, ou même des sénateurs ou des députés, en fait, il faut appartenir à une de ces deux machines politiques en réalité. Et donc, la seule possibilité de faire carrière, c'est vraiment d'être dans une de ces deux machines politiques. Et là, il faut se faire, en fait, un petit peu adouber par les parrains politiques du parti. Donc ça existe, hein. Il y a des candidats, par exemple, dans l'État d'Oyo, il y a des candidats. Les deux candidats, en fait, sont jeunes, c'est une nouvelle génération, ils ont 40 ans, ils sont... c'est peut-être une nouvelle génération politique qui émerge. De même, dans l'État de Lagos, donc dans le sud-ouest, il y a également une nouvelle génération de politiques. Mais si vous voulez, ceux qui tiennent les rênes, quand même, c'est quand même le plus ancien.
Et alors, ce Atiku Abubakar, qui est du Parti Populaire Démocratique, donc que vous citiez à l'instant, qui a été d'ailleurs vice-président, qui a l'air d'être un homme qui est très très riche et qui est le challenger, on va dire, qui est cet homme. Comment il est perçu par les habitants du Nigeria?
Alors, déjà qui il est, en fait, c'est un homme d'affaires, donc effectivement un milliardaire.
Très riche, ouais.
Mais avant de devenir milliardaire et de il fait surtout du business dans le pétrole, il a une grande société qui s'appelle Intel. Il a travaillé pour les douanes, 20 ans, en fait, dans les douanes nigérianes, donc dans le port de Lagos, et quand Lagos était encore capitale fédérale du Nigeria, mmh. 20 ans dans les douanes, il a, entre les années 70 et 80, quoi. Il s'est mis à la politique dans les années 90, essentiellement, et est devenu vice-président, en fait, du Nigeria en 99, avec le retour de la démocratie, et pendant 4 ans, il était chargé de la privatisation des entreprises publiques. Voilà. Et donc, en 2007, il a quitté le pouvoir, il a essayé de succéder à Obasanjo, ça n'a pas marché. Et ensuite, il a tenté à chaque élection de se présenter, et ça en changeant de parti allègrement. Mmh. En fait, il a changé 4 fois de parti entre 2007 et aujourd'hui. Donc, il est un peu perçu comme une girouette politique. Hein. Il n'est pas vraiment attaché à un ou un autre parti. Il est dans le parti qui lui permet de candidater. Donc là, cette fois-ci, ça a marché, en tout cas.
Laurent, pardon.
Voilà, il paraît être, aux yeux de la classe politique, surtout des entrepreneurs nigérians, il paraît être comme quelqu'un d'entrepreneur, de plus capable de remettre en route l'économie du pays. Mm-hmm. Mais voilà, il est aussi accusé de blanchiment d'argent dans les banques américaines. Du coup, il apparaît moins comme susceptible de pouvoir lutter contre la corruption.
Alors, Laurent Fourchard, il y a l'autre gros morceau, si je puis dire, se passe entre autres au nord-est, et c'est Boko Haram. Le convoi d'un gouverneur a d'ailleurs été attaqué hier encore et a fait 4 morts. Le Nigeria, on sait que c'est le berceau de ce groupe terroriste, même s'il s'est étendu après. Je vous poserai la question tout à l'heure de savoir jusqu'à quel point Boko Haram pèse ou peut peser, non seulement sur le climat sécuritaire, mais aussi sur ces élections. Je voudrais qu'on aille d'abord à la rencontre de cette zone au sens large, très touchée par Boko Haram, qui est le lac Tchad. Les attaques sont moins fréquentes qu'ils ont pu l'être à une époque, mais les racines du mal demeurent, notamment parce que la jeunesse, et ça aussi on en parlera, n'a aucune perspective d'avenir. Il reste donc un vivier pour les terroristes. On va aller à Méléa avec Claude Guibal. Nous sommes pile à la frontière avec le Nigeria et on se retrouve juste après.
Il est allé chercher une natte et l'a étalée à l'ombre du grand arbre à l'entrée du village. Tout autour, il y a des huttes en bois flotté, un dromadaire qui passe et puis là-bas, des femmes qui marchent en direction du puits, un jerrican de 10 litres dans chaque main. Le vieil homme à barbe blanche s'appelle Mamoutou. C'est le chef du site de déplacés de Méléa. On est au bord du lac Tchad. Le Nigeria n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres et sur les eaux du lac, fin décembre, on a vu arriver, encore une fois, quelques milliers de réfugiés qui fuyaient les combats juste de l'autre côté de la frontière entre l'armée nigériane et les djihadistes de Boko Haram. Mamoutou se souvient, pour lui, c'était ici, au Tchad. C'était il y a 4 ans.
Boko Haram nous a attaqués une nuit à 3h du matin. Il y avait des rumeurs disant que Boko Haram était dans les parages. Alors quand ils ont attaqué le village voisin, on a compris, on a à peine eu le temps de s'échapper. On a entendu le bruit des armes. Dans le village voisin, ça a été un massacre. La nuit, je n'arrive même pas à dormir. Tout le temps, on entend parler d'une attaque ou d'une alerte. Sans la présence des militaires à côté, je ne pourrais pas supporter de rester ici. Moi, je ne pense pas que Boko Haram, ça soit fini. Ça fait 4 ans que je suis là et 4 ans que toutes les semaines, j'entends parler de quelque chose.
Le lac Tchad est devenu comme un sanctuaire pour Boko Haram. Au Tchad, pour traquer les djihadistes, les autorités ont ordonné à la population de quitter les îles où les combattants arrivent à se dissimuler. Les frontières sont fermées, les marchandises ne circulent plus ou au prix d'un détour énorme dont le prix exorbitant se répercute sur les marchés. Autour des îles, la pêche est interdite. Quiconque est vu là-bas est suspecté d'appartenir à Boko Haram. Abakar est concentré. Le jeune homme a bénéficié de l'aide de l'ONG CARE qui lui a donné cette machine à coudre. Batran s'occupe de ce projet.
Maintenant, par exemple, les jeunes qui ont quitté leur terre natale pour venir s'installer ici, il y a certains des airs amis qui ont regagné Boko Haram. Comme ils sont toujours en contact, maintenant, par exemple, si tu es jeune et que tu te trouves avec les mains vides, tu n'as pas le choix. Ou tu auras quelque chose ici. Dans le cas contraire, directement, tu vas rejoindre tes amis qui sont avec Boko Haram.
Le taux de chômage est en effet vertigineux et l'ONG essaie de multiplier les formations pour les jeunes, couturiers, mécanos, pour tenter de leur offrir une perspective. Lorsqu'elle attaque les villages, la secte djihadiste continue d'enrôler de force, mais ses recruteurs séduisent aussi entre discours religieux et promesses d'une vie meilleure, d'argent facile, de femmes. Abdoulaye Ali est un ancien combattant de Boko Haram.
Là-bas, tu as peur, tu fais ce qu'on te demande de faire. Les filles, quand ils attaquent les villages, elles sont enlevées de force et ramenées. Après, on leur demande de choisir un mari parmi les combattants. Oui, j'y suis allé parce qu'on m'a fait miroiter des choses. Je suis resté 3 ans là-bas. Je reviens les mains vides. J'ai tout perdu. Je suis à nouveau à la charge de ma famille. Même mon père vient de me fournir une femme. Je vis à leur crochet. J'ai honte de moi.
Abdoulaye Seté fixe le sol de ses yeux morts en disant « Le conflit avec Boko Haram a fait plus de 27 000 victimes dans la région. Une guerre presque silencieuse, loin d'être terminée. »
Un reportage signé Claude Guibal, Laurent Fourchard, une guerre loin d'être terminée. Effectivement, en quoi Boko Haram pèse sur cette campagne? Est-ce qu'on en a beaucoup parlé? Est-ce qu'on en parle beaucoup? Est-ce qu'on craint ce poids? Pas du tout.
Alors, peut-être que petit retour historique. Mmh. En 2015, quand Buhari était élu, Boko Haram avait une force de frappe bien plus considérable en réalité. Et contrôlait l'État du Borno, donc l'État où...
Là où il y a eu l'attentat hier, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, qui est le lieu d'origine donc, de Boko Haram, plus les deux États voisins, une partie des deux États voisins. Et donc, en 2015, tout le monde disait que Boko Haram allait faire des rails à la campagne, et en réalité, ils n'y sont pas arrivés. Cette année, les Boko Haram n'a pas disparu. Hein, c'est clair dans le reportage, quoi. Notamment à la frontière avec le Tchad, à la frontière avec le Cameroun. Là, il y a des poches de résistance et des combattants de Boko Haram qui sont là et qui opèrent et qui ont encore force, capacité de porter des coups et de faire des attentats suicides et de faire des attaques sur des villages non protégés. Ceci dit, c'est pas certain en fait que Boko Haram puisse faire des rails à la campagne, y compris en fait dans l'état du Borno, donc là où le groupe est implanté. La plupart, en fait, il y a l'armée est là, la police est là, et il y a des groupes paramilitaires qui sont là et qui protègent les 4000 bureaux de vote de l'État. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est plus des Nigérians de la société civile qui disent que l'élection devrait pouvoir se tenir, y compris dans cet État.
Une dernière chose, Laurent Fourchard, il y a une chose qui m'a frappé moi dans le reportage de Claude Guibal, ce sont ces jeunes qui disent, de toute façon t'as pas le choix en fait, t'as pas le choix parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a rien à faire et donc tu finis dans les rangs de Boko Haram, parfois contraint et forcé et parfois de toute façon parce qu'il faut bien se nourrir. Est-ce que c'est quelque chose qui transparaît et transpire également au Nigeria? Est-ce quelque chose qu'on entend ou pas?
Oui, tout à fait. Il y a cette dimension économique importante. Hein. L'État de Borno, c'est 60% d'analphabètes. Et puis, c'est aujourd'hui un État dévasté. Il y a plus d'agriculture, ou très peu, en tout cas. Et du coup,
Boko Haram, le seul échappatoire, c'est de s'enrôler dans Boko Haram, c'est ça l'idée?
Non, c'est aujourd'hui beaucoup moins, en fait, hein, puisque le groupe est beaucoup moins influent. Quoi. Mm-hmm. Mais ça a pu être à un moment, en fait, un échappatoire possible avec des promesses de rétribution. Apparemment, une partie des combattants étaient rétribués, pouvaient acquérir des femmes qui étaient kidnappées. Voilà, donc il y avait ces promesses-là qui étaient possibles, surtout pour les jeunes les plus vulnérables et ceux qui sont au bas de l'échelle sociale. Quoi.
Laurent Fourchard, merci beaucoup. On va les suivre avec beaucoup d'attention, ces élections au Nigeria. C'est 84 millions d'électeurs, 190 millions d'habitants. C'est un pays colossal en nombre de population que ce Nigeria. Merci mille fois de votre passage d'un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saintès, un jour dans le monde.
La suite, voilà, avec le micro c'est mieux, la suite d'un jour dans le monde, ça se passe aux États-Unis où une photo du gouverneur sur un vieux cliché où l'on voit un blackface, un homme grimé en noir et un autre avec une capuche du Ku Klux Klan, tout cela a ravivé de sacrés souvenirs, de mauvais souvenirs évidemment. C'est un reportage signé Grégory Philippe dans un instant sous les radars et Amélie Perry avec notamment des politiciens complètement dingues en Australie. L'Europe qu'on aime ou qu'on quitte avec Angélique Boin ce soir et l'icône de l'anticorruption en Roumanie que l'on cherche à discréditer puis le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Aux États-Unis, vous aussi avec la lutte contre les armes à feu, un an de Parkland.
Ouais, je suis venu avec mon Colt vu qu'on peut continuer à dégainer tranquille un an après.
Allez, à tout de suite à 18h55, le tour de la planète continue. Il passe par le Royaume-Uni, voici Anna Calvi, As a Man, c'est le titre, et c'est à découvrir dans la playlist d'Inter.
If I was a man and opened my body, oh, would I now understand you? I was a man.
Cette personne, Anna Calvi, As a Man, c'est le titre. Allez, Amélie Carrier là.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Interventia extra.
Oh, mais j'ai bien aimé, c'est juste
vous,
que j'ai
Fabienne
perdu
Sintès,
son
moi,
nom.
Amélie
oui,
Carrier,
oui, oui, ça c'est bien de son nom. Oh là là, ma pauvre amie, si vous saviez. Sinon, les politiques perdent la tête en Australie.
Eux aussi, oui, accusation de harcèlement sexuel, bagarre dans les couloirs du Parlement, des traces de sang sur les murs, un sénateur qui apparaît avec la main bandée. Les commentateurs ne savent plus où donner de la tête. Tout est parti avant-hier des accusations de la chef de l'extrême droite, Pauline Hanson. Elle accuse un sénateur, sans le nommer, de harcèlement sexuel grave. Elle ne dit pas qui c'est, mais on apprend ensuite que ce serait le sénateur Brian Burston, un ancien de son parti. Alors quand un conseiller de Pauline Hanson lui demande des explications et le filme, le sénateur Burston s'en prend violemment à lui à l'intérieur du Parlement.
Go away, James.
How do you feel about the sexual harassment
cases?
Go
away, James. It's all...
Ah voilà, là ça se barre, elle change de coup. Ouais, ouais, ouais. Le sénateur Burston se blesse carrément en frappant le vidéaste. Il apparaît ensuite la main bandée. On retrouve dans la soirée des traînées de sang sur la porte du bureau de Pauline Hanson. Le sénateur Burston va reconnaître qu'il s'agit de son sang, même s'il dit de ne pas se souvenir de l'avoir laissé sur la porte. Et Brian Burston n'a pas manqué, oui, d'accuser en retour Pauline Hanson de l'avoir aguiché. Réponse de la patronne de l'extrême droite interrogée à la télé. C'est gêné. Je pense que c'est hilarant. Non, vraiment, c'est une blague intégrale, dit-elle. Et plus tard, elle finira par plaindre la femme de Burston. Alors, ça s'arrête pas là, en Australie. Dans le même temps, à la Chambre des représentants, le gouvernement conservateur a battu des records de longueur lors d'une séance de questions. L'exécutif est en difficulté en ce moment. Il vient de perdre un vote majeur à propos d'une loi pour les réfugiés retenus dans des camps offshore en Papouasie-Nouvelle-Guinée grâce au texte voté par les travaillistes. Ces migrants vont pouvoir venir se faire soigner sur le sol australien. La droite au pouvoir était contre, elle a perdu donc. Et hier, un autre vote délicat se tenait en faveur des personnes handicapées. Là aussi, le gouvernement risquait de le perdre. Alors le patron des députés de la majorité a envoyé un mail avec ce mot d'ordre. Ne quittez pas la maison. Les députés sont restés dans la chambre. Les photographes s'en sont donnés à cœur joie, surprenant certains en train de dormir dans l'hémicycle, jusqu'à ce qu'un membre de l'opposition crie « Faites voter !» Une image bien curieuse quand même de la politique australienne à quelques mois des législatives.
Ne quittez pas ce studio, Amélie Perrier. La Zambie veut tuer ses hippopotames.
Ouais, alors vous allez peut-être les reconnaître.
Ah bah oui, Michel, Jean-Pierre, bonsoir.
Voilà, voilà, des hippopotames. Les défenseurs des animaux, non.
Vous allez les reconnaître, qu'elle me dit. Mais je rêve.
Les défenseurs des animaux, non, rien. Voilà, on va peut-être les laisser en Zambie.
Oui.
Alors, puisque la Zambie, pays dans le sud-est de l'Afrique, veut abattre 2000 hippopotames dans les 5 prochaines années. Ça se passe dans le parc de South Luangwa, où le ministère recense 13 000 spécimens, alors qu'il ne peut accueillir ce parc que 5 000 hippos. Là, c'est la version du gouvernement qui dit qu'il y a danger, selon lui, pour l'écosystème. Pas du tout, répondent les ONG. Elles
Et
craignent...
les hippos en cœur.
Ils sont toujours là.
Ouais.
Elles craignent que les autorités ne veulent se faire de l'argent en fait en vendant les trophées des hippopotames tués. Ça pourrait rapporter l'équivalent de 3 millions d'euros. Les hippopotames sont considérés comme des animaux vulnérables selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il n'en reste que 130 000 en liberté aujourd'hui dans le monde.
Allez, un peu d'air frais et hop, maintenant direction le Pakistan.
Ah, si vous skiez cette semaine en Haute-Savoie ou que vous vous apprêtez à dévaler les pentes des Pyrénées, voire des Alpes suisses ou autrichiennes, sachez qu'une autre nation veut désormais compter dans le paysage du ski mondial. C'est donc le Pakistan. Oui, partons skier au Pakistan. Des dizaines d'athlètes viennent de participer à une compétition internationale dans la station de Naltar. C'est dans le massif du Karakoram, dans l'extrême nord du Pakistan, à côté de l'Himalaya. La station a beaucoup servi aux entraînements des militaires pakistanais, mais depuis quelques années, elle s'ouvre aux touristes. Et là, c'est Laura Moore, elle est la représentante de la Fédération internationale de ski. Elle l'avoue, c'est sûr qu'on est hors des sentiers battus par rapport aux vacances des skieurs traditionnels. Je pense que c'est pour les aventuriers, les gens en quête d'une expédition. Et elle dit, moi, c'est mon cas. Alors, la neige y est abondante, les gardes de sécurité aussi. Sur les images, on les voit en combinaison de ski, fusils semi-automatiques en bandoulière. Oui, parce que la sécurité alors s'améliore dans le pays, mais quand même, peut-être. Le Pakistan vient quand même d'ouvrir une autre station de ski dans la vallée de Swat, qui était autrefois contrôlée par les talibans.
Et ben voilà, merci beaucoup Amélie Terrier. J'en viens pas, vous m'avez demandé de reconnaître des hippopotames. Allez, à lundi.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
C'est en Virginie, sur la côte est des États-Unis, que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde avec une polémique dont Grégory Phillips nous avait déjà parlé. D'ailleurs, le gouverneur démocrate de cet état de Virginie s'appelle Ralph Northam. Et dans le trombinoscope de son école de médecine, sur sa page à lui, on a retrouvé une vieille photo en noir et blanc sur laquelle on voit deux personnages. L'un est grimé en noir, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le blackface. L'autre a une tenue du Ku Klux Klan. Bonsoir, Grégory Phillips.
Bonsoir, Fabienne.
Grégory, cette affaire qui empoisonne le gouverneur, c'est peu dire, ravive pour certains de vieilles douleurs et pour d'autres des souvenirs qui finalement ne sont pas si lointains. Et c'est ce que vous avez réalisé en vous rendant à Richmond, tout simplement, la capitale de cet État qui anciennement a été un État ségrégationniste.
Dans le quartier afro-américain de Jackson Ward, les fresques murales témoignent du combat pour les droits civiques et racontent aussi l'histoire du peuple noir américain. Ici, la population est quasi entièrement africaine-américaine et en ce début d'après-midi, il suffit de pousser la porte du coiffeur du coin de la rue pour s'apercevoir que les clients, entre deux coupes de cheveux, ne parlent que de cela, l'affaire du gouverneur.
I'm sad to see it. It's terrible.
Je suis vraiment triste de tout ça. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on doit dire aux enfants ? Que le gouverneur s'amuse à se déguiser en noir ?
Moi, je pense que c'est lui sur la photo. Mais ça vous surprend qu'un blanc se grime en noir ou porte un costume du Ku Klux Klan ? Vraiment, ça vous surprend ? Les hommes blancs font ça depuis des années. Ce pays, cet état de Virginie, se sont construits sur le racisme. Et oui, c'est ça l'Amérique.
Le blackface est connu de tous ici. Le phénomène remonte au début du 19e siècle, quand sont apparus les premiers minstrels, ces spectacles dans lesquels des comédiens blancs se grimaient en noir, présentant toujours les Africains-Américains comme stupides ou rigolards. Cette caricature raciste, on en retrouve donc la trace dans ce cahier de fin d'année de 1984, quand le gouverneur Northam n'était encore qu'étudiant à l'école de médecine. Julian Maxwell Etter est professeur en histoire afro-américaine à l'Université de Richmond.
L'histoire du blackface aux États-Unis est extrêmement chargée. À l'époque, pour les Blancs, c'était un moyen de minimiser et de se moquer des capacités intellectuelles des Noirs. Cette tradition s'est poursuivie au 19e et au 20e siècle. Et quand aujourd'hui on voit ces images ressurgir, ça signifie que le sud des États-Unis n'a pas encore réglé tous ses démons. La plupart de ces hommes blancs, qui ont une cinquantaine d'années aujourd'hui, qui sont en politique en Virginie, ont été élevés par des parents, des enseignants, qui ont vécu à l'époque de la ségrégation.
Depuis que le scandale a éclaté il y a 2 semaines, les manifestations sont quasi quotidiennes au pied du Capitole local pour réclamer la démission du gouverneur démocrate, Ralph Northam, qui pour se défendre a multiplié les maladresses. Dans un premier temps, il a reconnu que c'était bien lui sur la photo, mais ne se souvenant plus lequel des deux personnages il était, le blanc grimé en noir ou bien celui qui portait la sinistre tenue du KKK, avant finalement de revenir sur ses propos et d'affirmer qu'il n'a rien à voir avec cette image raciste et dégradante. Ce lundi, Northam était sur CBS pour s'expliquer.
This is the CBS Evening News with Jeff Glore.
J'ai compris ces derniers jours pourquoi ce blackface était aussi offensant. Enfin, je le savais déjà, mais ce qui vient de se passer m'a confirmé.
Mais, gouverneur, c'est compliqué pour ceux qui nous écoutent d'admettre qu'un homme éduqué comme vous
un homme de 59 ans, n'ait pas compris plus tôt que ça pouvait être offensant. Vous ne le saviez pas ?
Mais vous savez, on apprend tout le temps. Et je ne suis pas la même personne à 59 ans aujourd'hui que lorsque j'avais 20 ans.
Mais vous avez 20 ans en 1984, pas en 1964.
Oui, c'est vrai.
Dans le centre-ville de Richmond, on est frappé aussi par les statues de généraux sudistes et confédérés qu'on voit un peu partout en ville. Ici, par exemple, celle du général Robert E. Lee. L'État de Virginie a été une plaque tournante du commerce des esclaves. Il a aussi été l'un des États les plus réfractaires au mouvement des droits civiques et à la déségrégation. Mais précisément à cause de ce passé-là, les élus doivent être exemplaires, dit Tory, une habitante.
Nous, peuple des États-Unis, c'est dans la Constitution. Notre pays s'est construit là-dessus. Et nos élus devraient être capables de diriger le peuple, sans discrimination. Vous savez, en Virginie, c'est l'État où les Blancs se sont le plus battus pour conserver l'esclavage. Et on a toujours des problèmes. Si maintenant, vous allez devant le musée de la ville, vous verrez encore des drapeaux confédérés. Oui, là-bas, juste devant le musée.
Effectivement, pas très loin du musée, on croit ce petit groupe de 5 personnes qui manifestent pour la défense des statues et monuments confédérés. Sidney a 75 ans, casquette « Make America Great Again » sur la tête, drapeau confédéré à la main. Le vieil homme se dit sudiste, républicain, et pourtant il ne souhaite pas la démission du gouverneur démocrate pour cette simple raison.
On ne peut pas lui reprocher quelque chose qu'on a tous fait quand on était jeunes. Quand on avait 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, les gens trouvent ça offensant. Mais à l'époque, c'était différent.
En Virginie, c'est tout l'état-major démocrate qui est aujourd'hui dans la tourmente. Le procureur général de l'État a reconnu s'être lui aussi, dans sa jeunesse, déguisé en noir. Dans une affaire qui n'a rien à voir, le gouverneur adjoint est accusé d'agression sexuelle. Quant au gouverneur Northam, malgré les appels à sa démission, il reste en poste pour l'instant, alors que cette affaire de blackface est en train de devenir un scandale national.
Le scandale de l'affaire des blackface en Virginie pour Un Jour dans le Monde. Grégory Phillips, merci beaucoup. À lundi, Greg. Eh bien, ça colle parfaitement. Tiens, voici Grégory Porter, Liquid Spirit, sur France Inter et dans Un Jour dans le Monde. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. Grégory Porter et Liquid Spirit, et c'est sur France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Géniale.
Qu'on aime ou qu'on quitte l'Europe telle qu'on l'aime ou telle qu'elle nous sort par les yeux tous les jeudis dans Un Jour dans le Monde. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir Fabienne.
Correspondante de France Inter à Bruxelles. Angélique, on se souvient des mises en garde des responsables européens quand la Roumanie a pris la présidence de l'Union, c'était le 1er janvier dernier, sur les questions de respect du droit et de la justice. On imaginait que sur le sujet, le parti au pouvoir se ferait discret. Eh bien pas du tout.
Oui, c'est raté. La dernière affaire en date est en effet assez édifiante. Elle concerne Laura Kövesi, cette magistrate de 45 ans, qui dirigeait le parquet anticorruption roumain, qui a été limogée l'an dernier. Alors limogée pour faire court, parce qu'elle faisait en fait trop bien son travail. Un chiffre, en 2017 par exemple, avec son équipe, elle a poursuivi en justice plus de 1000 personnes, dont 3 ministres, 5 députés et un sénateur. Depuis, elle est la cible permanente et quasi obsessionnelle du parti au pouvoir, qui, rappelons-le, en parallèle, détricote les lois qui lui avaient permis de s'attaquer à la corruption. Eh bien, cette femme à poigne, très populaire en Roumanie, est candidate au poste de chef du futur parquet européen. Elle est très bien placée puisqu'elle figure aujourd'hui en tête de la liste des 3 candidats retenus à ce jour par Bruxelles. Voilà qu'hier soir, c'est elle-même qui a prévenu les médias. Elle a appris qu'elle était convoquée par la justice de son pays, suspectée, dit-elle, d'abus de service, de corruption passive et de faux témoignages. Elle va devoir se rendre à la police alors qu'elle est attendue justement ici pour défendre sa candidature. Rien décidément ne lui est épargné. Il semble que les autorités roumaines ont vu rouge à l'idée de la voir atterrir ici à Bruxelles. Cette convocation, elle s'ajoute en effet à une lettre, tenez-vous bien, envoyée il y a quelques jours par le ministre roumain de la Justice lui-même à tous ses homologues de l'Union, lettre publiée dans la presse, dans laquelle il dresse un portrait au vitriol de la magistrate pour la discréditer. Il l'accuse d'avoir signé, je cite, des pactes secrets et antidémocratiques avec les services secrets roumains, de mener en quelque sorte des enquêtes parallèles dignes de l'époque communiste, écrit-il en citant la Securitate. Alors la Commission européenne a réagi assez vite cet après-midi en rappelant qu'elle avait déjà souligné à plusieurs reprises son attachement à un pouvoir judiciaire indépendant en Roumanie, tout est dit.
Donc elle devrait rester dans la course si tout va bien. Et ce parquet européen, alors il s'agit de quoi, Angélique ?
Eh bien en fait c'est un parquet qui verra le jour en 2020. L'idée c'est de lutter à l'échelle de l'Union européenne contre la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux et la fraude frontalière à la TVA. Un chiffre, cette fraude à la TVA, ça prive les États membres d'au moins 50 milliards d'euros de recettes par an. Pour ce qui est des fraudes, par exemple, sur les fonds structurels européens, bien on estime à 630 millions les détournements pour l'année, par exemple, 2015, c'est les derniers chiffres. Bruxelles a donc décidé de se doter de ce parquet pour mieux coordonner la lutte. 22 des 28 États membres sont associés à cette initiative. Et puis en 2014, eh bien, un rapport européen avait cité le parquet anticorruption roumain, dirigé par Laura Kövesi, comme étant l'un des plus efficaces de l'Europe. On comprend que sa candidature est donc séduite ici à Bruxelles.
Alors, Angélique, un petit mot sur l'actu du jour, parce qu'elle nous intéresse aussi pour le téléphone sonne à venir tout à l'heure. Manifestation dans les rues de la capitale belge pour le 6e jeudi consécutif des lycéens qui font la grève des cours qui sèchent pour défendre le climat.
Et oui, ils étaient encore 11 000 aujourd'hui, selon la police. C'est assez fou ce qui se passe ici, Fabienne, car de semaine en semaine, de jeudi en jeudi, la détermination de ces lycéens ne faiblit pas. Aujourd'hui, ils ont reçu le renfort des étudiants de plusieurs universités. La semaine prochaine, la jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, devenue une figure mondiale de ce mouvement européen des jeunes pour le climat, est annoncée ici à leur côté pour manifester. Alors j'ai rencontré ce matin les deux porte-parole, les deux égéries néerlandophones et francophones de cette mobilisation, Anna de Wever et Adélaïde Chartier. C'est assez fascinant de voir leur détermination et leur sang-froid. Elles ont été reçues au Parlement wallon, au Parlement européen. Elles font la une des médias belges depuis des semaines. Leur mouvement a provoqué la démission de la ministre flamande de l'Environnement. Elles sont droites dans leurs bottes. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on entende notre inquiétude pour notre avenir et que les politiques fassent leur travail. C'est ce qu'elles répètent en boucle face aux caméras. Elles veulent, avec donc ces milliers de jeunes qui les suivent chaque jeudi, obtenir une nouvelle loi climat avant les élections du mois de mai. Elles y croient. Le mouvement SM en Belgique et partout ailleurs, les jeunes Français manifesteront demain. Et puis on voit les soutiens au bord de la route. Aujourd'hui, il y avait plein de parents. Et puis il y avait qui les applaudissaient. Il y avait une pancarte très amusante sur 3 mètres de long, tenue par 2 couples de parents. C'était écrit « Ta chambre 0 sur 10, ton engagement 10 sur 10 ». Magnifique, magnifique photo.
Angélique, merci beaucoup en direct de Bruxelles. Et puis on y reviendra donc nous aussi au téléphone sonne avec les jeunes. Un téléphone sonne 15-25 ans, les solutions, les questions autour du climat, puisque nous, les vieux, on fait un peu n'importe quoi. Et à vrai dire, c'est assez juste.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, il y a un an tout pile, donc c'était après la tuerie de Parkland en Floride. On pouvait se dire que rien ne serait jamais comme avant et les jeunes, justement, avaient pris réellement les choses en main. Un an après, c'est presque l'inverse. Les pro-armes ont gagné et c'est votre monde à l'envers.
Never again, plus jamais ça. Vous vous souvenez, c'était le slogan qui semblait devoir tout emporter il y a un an après cette tuerie qui avait fait 17 morts dans ce lycée de Floride. Et il s'en était suivi, c'est vrai, une mobilisation sans précédent avec notamment ce discours extraordinaire d'une jeune femme, Emma Gonzalez. On allait voir ce qu'on allait voir, le puissant lobby américain des armes, la NRA, n'allait pas s'en remettre. Un an plus tard, passez-moi l'expression, queue de cerise, rien, quasiment rien. Il y a bien eu dans quelques états du pays de nouvelles lois qui ont repoussé à 21 ans l'âge limite pour détenir une arme ou instauré, la belle affaire, un délai de 3 jours entre la demande d'achat et l'acquisition d'un gun. Et puis, c'est à peu près tout. Au niveau national, fédéral, un texte a bien encadré les bump stocks. C'est ce système qui permet de transformer une arme classique en arme automatique. Mais pour le reste, zéro, aucune interdiction supplémentaire. Ça veut dire que la NRA a gagné. Les démocrates, qui entre-temps sont devenus majoritaires à la Chambre, veulent remettre le sujet sur le tapis. Mais de toute façon, ça ne passera pas au Sénat puisqu'il reste sous contrôle républicain. Résultat des courses, toujours autant de morts aux États-Unis. Le bilan définitif de 2018 sera aussi catastrophique que celui de 2017, qui était le pire depuis 25 ans. 35 000 morts, ça veut dire à peu près un tous les quarts d'heure. 334 fusillades recensées en un an, déjà 37 depuis début 2019. Rien ne bouge. Le taux d'homicide aux États-Unis reste 25 fois supérieur à celui de tous les autres pays occidentaux.
Mais alors Jean-Marc, que ça bouge pas en termes législatifs, c'est une chose, on pouvait d'ailleurs s'en douter, mais que dans les mentalités... Parkland n'est rien changé, là non peut-être, non ?
Mais c'est pas si évident et c'est presque ça le plus sidérant, parce que passé les premières semaines d'émotion et de mobilisation qui ont suivi Parkland, la NRA ensuite a remonté la pente et elle a gagné la bataille de la communication avec ses deux idées, toujours les mêmes. Un, le contrôle des armes serait une atteinte aux libertés individuelles. Deux, ce sont les hommes qui tuent, pas les armes, donc il faut contrôler les hommes. Et ça a marché, le débat public aux États-Unis s'est déplacé, il ne porte plus sur la limitation des armes, il se concentre sur le profil psychologique des tueurs et aussi sur le problème de la drogue. En mai dernier, la ministre de l'Éducation est venue le dire tout net devant le Sénat, nous n'examinerons pas le rôle des armes dans les tueries à l'école. Et en novembre, la NRA, ces pays de luxe, envoyait un courrier à tous les médecins américains pour leur dire « mêlez-vous de vos affaires ». Une revue de santé avait osé dénoncer le poids des armes, qu'elle toupait. Même l'opposition démocrate concentre sa réflexion sur le profil des acheteurs d'armes, pas sur les armes. Encore plus fort, la principale conséquence pratique de la tuerie de Parkland, c'est que le personnel de nombreux établissements scolaires a été autorisé à porter des armes pour se défendre. Et hop, un nouveau marché, encore plus de ventes de fusils et de pistolets. Non, c'est un triomphe pour la NRA.
Mais quand même, il y a eu une vraie mobilisation anti-armes après Parkland. Ça, on peut pas dire le contraire.
Ah, ça, c'est vrai. Et c'est peut-être le seul changement réel. Une génération est née à la politique après Parkland. Emma Gonzalez, bien sûr, on en parlait à l'instant. Mais ça va beaucoup plus loin. Lors des élections de mi-mandat, les inscriptions sur les listes électorales ont augmenté significativement. 10% de votes jeunes en plus par rapport aux précédentes élections de mid-term. Les lycéens, les étudiants se sont mobilisés en nombre. Il y a eu cette caravane Road to Change, ou tout simplement en échangeant d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ici et là, quelques candidats anti-armes ont même créé la surprise en remportant des élections. Jason Crow dans le Colorado, Lucy Macbeth en Géorgie. Cette génération va donc peut-être parvenir à relancer le débat sur les armes lors de la prochaine présidentielle dans un an et demi. À ceci près qu'une nouvelle fois, c'est certain, elle trouvera à nouveau la NRA sur sa route. Lors de la dernière campagne présidentielle, le lobby des armes avait dépensé 30 millions de dollars pour défendre sa cause.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, tous les jours dans Un jour dans le monde.